Then who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, je dis bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Bonjour à toutes et à tous. Oui, nous sommes le mardi 5 décembre 2023. Vous êtes bien et même très bien sur O2 Radio 91.3. Il est 14h passé de quelques secondes à notre horloge. Bienvenue dans le 138e épisode de Ciné 100, pardon, qui est aussi le 11e de la saison 5. Ça fait beaucoup de chiffres tout ça. Ah bah, oui. Nous continuons donc notre périple cinématographique dans 100 ans et plus de cinéma au gré des thèmes, des envies, des humeurs. Alors quand je dis « nous continuons », je parle de vous autres auditeurs et auditrices, fidèles au poste, comme on dit à la radio. Mais je parle aussi, bien sûr, de l'équipe de l'émission. Anne-Lise, bonjour Anne-Lise.
Bonjour Jean-Jacques.
Comment allez-vous?
Ben, ça vient, et vous?
Ça va très bien, merci. Et Patrick, bonjour Patrick.
Oui, bonjour Jean-Jacques. Bonjour Anne-Lise.
Bonjour Patrick.
Vous allez bien?
Ben, ça va, et vous?
Ouais, ça va super,
ça
merci.
Ça a l'air, oui. Ouais. Bon alors Patrick, je vous laisse le soin de nous présenter le thème du jour.
Alors oui, je vais présenter le thème du jour, mais juste avant de le commencer, je vais juste faire une petite dédicace pour Tony et Christiane, chez qui j'étais en tournage ce matin, et qui m'ont dit qu'ils allaient écouter l'émission. Donc voilà, je leur fais un gros bisou, et puis voilà, c'est parti.
Bonjour à Tony et Christiane.
Bonjour à Tony et Christiane.
Bonjour à Tony et Christiane, absolument.
Donc, le thème du jour, Patrick.
Alors, vous ne le savez peut-être pas, et dans ce cas, je vais vous l'apprendre. Mon père était un amateur inconditionnel de Jean Gabin, grande figure du cinéma français.
Oula.
Ce qui fait que chaque fois qu'un film avec le DAB passait sur le petit écran, nous nous asseyions tous sur le canapé et regardions religieusement les aventures de Pépé le Moko ou de Jules Maigret. Toute une mythologie est née dans ces années-là en France, autour du personnage du gangster, de ce bandit pas toujours au grand cœur, mais qui finit par remporter l'adhésion. Confronté à la rude réalité de la vie, crise économique, crise morale ou simplement appât d'un gain facile, le voyou exerce, qu'on le veuille ou non, une sorte de fascination pour le commun des mortels. Alors, on s'est tous rêvés en Robin des Bois. N'était-il pas une sorte de voyou sympathique qui mettait son arc au service des plus asservis par le pouvoir ? Alors, les films policiers ont entretenu cette double légende, celle du gangster, bien sûr, mais de l'autre côté du miroir, celle du flic. Celui qui, obstiné, voudra obtenir la vérité, quitte parfois à franchir lui-même la ligne rouge. Regardez le professionnel, Bebel transgresse la loi pour débusquer les coupables. Dans le clan des Siciliens, Ventura, lui, reste du bon côté de la loi. Cette loi qui fait le terreau de toute vie en démocratie. Les polars ont donc cet attrait savoureux et légèrement plaisir coupable. Alors, selon les anthropologues David Pichrit et Lucia Mtsuleti, la fascination pour les bandits actuels et passés est le fruit d'un mélange entre fiction et réalité produit par tous via les réseaux sociaux et la production culturelle. Nous serions donc tous responsables de voir le bandit comme une sorte de héros romantique, bien que certains ne sont pas franchement recommandables. Les polars ont cette fonction de révéler au monde, de manière romancée et acceptable pour le public, les histoires extraordinaires de Mesrine, de Bono ou de John Doe. Hein, Anne-Lise ? John Doe, ça vous parle, hein ? Je vous renvoie donc au très bon article de Yannick Dehé dans la revue 20e siècle, consacré au sujet en 1997. Alors voilà, nous, l'épisode numéro 11 de Ciné 100 s'intitule 112.
Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus. Je dynamite. Je disperse. Je ventile.
Il a bien raison.
Ah oui, il a bien raison.
Une balle, une seule, l'ouverture du film Lord of War d'Andrew Niccol est marquante. On suit la trajectoire de cette balle, de sa création en usine, à l'impact dans le front d'un enfant.
Alors, petit résumé peut-être. Émigré ukrainien galérant dans le resto familial en attendant que le destin lui fasse reset, Yuri Orlov entrevoit le début du rêve yankee en revendant son premier flingue sous la table. Pour celui qui sait s'arranger avec sa conscience, ce commerce se relève du véritable jackpot. C'est bien simple, les statistiques garantissent la fortune ou la mort à tous ceux qui ont tenté leur chance dans cette voie.
Aujourd'hui, près de 600 millions d'armes, pardon, au moins, circulent à travers le monde. Un dixième de la population de notre chère et tendre planète est donc en mesure de faire la peau à qui lui chante en appuyant sur la détente. Bon. Ça fait froid dans le dos. Oui. Et met du beurre dans les épinards de quelques je m'en foutisme de la paix, tel que celui qu'incarne Nicolas Cage dans le film. Sa performance à lui consiste à nous déstabiliser. À nous déstabiliser en avouant face caméra qu'il vise à ravitailler le pourcentage restant de pauvres bougres inoffensifs.
Alors, il y a plus de 600 millions d'armes, comme vous le disiez, Anne-Lise, dans le monde. Cela représente une personne sur 12 armée. une sur 12. La seule question à se poser est de savoir comment armer les 11 autres.
On estime à environ 550 millions le nombre d'armes à feu actuellement en circulation. Autrement dit, il y a un homme sur 12 qui est armé sur cette planète. La seule question, c'est comment armer les 11 autres.
Je m'appelle Yuri Orlov. Dans ma jeunesse, à Little Odessa, le crime faisait partie du quotidien. Mais ce jour-là, j'ai compris que ma vraie vocation était de satisfaire un besoin élémentaire de mes congénères.
Qu'est-ce que tu connais aux armes ?
Nous sommes déjà sur le marché.
Nous ?
Bracia Parugi.
La première et la plus importante de toutes les règles dans ce métier.
Le nouvel Uzi, le meilleur pistolet mitrailleur du marché.
C'est d'éviter de se faire tirer dessus avec des armes qu'on a vendues.
Bien entendu, ce serait contre-productif sur un plan commercial.
Impressionnant.
Vendre des armes, c'est comme vendre des aspirateurs. On passe des coups de fil, on fait des kilomètres, on prend des commandes. Je fournissais toutes les armées, sauf l'armée du salut.
Tu peux me ramener le flingue de Rambo ?
Rambo 1, 2 ou 3 ? Au milieu des années 80, mes armes étaient présentes dans 8 des 10 principales zones de guerre du monde. J'étais devenu le plus grand marchand de mort de la planète. Chacun, à notre façon, avait conquis le monde.
J'ai toujours travaillé dans la légalité la plus absolue !
Je me fous que ce soit légal ! C'est immoral !
Alors, vous avez corrigé de vous-même, puisque dans la bande-annonce, il est bien précisé qu'il y a plus de 550 millions d'armes dans le monde. Hein, c'est une erreur de ma part, je vous prie de m'en excuser.
Et les 600 millions d'armes qui circulent à travers le monde, c'est à l'heure actuelle.
C'est à l'heure actuelle.
On est proche du milliard, en fait, parce que la source, il me semble, elle date de 2017.
Oui, parce que le film date de quand ? De 2002
de 2005.
De 2005, donc effectivement, on a vendu des armes depuis. On en a fabriqué aussi.
Alors,
dépourvu de tout scrupule, Yuri Orlov se trouve confronté à l'agent Jack Valentine, un Ethan Hawke impeccable, inflexible, versant moral de cette intrigue pessimiste. Ajoutons Jared Leto dans le rôle du frère d'armes qui expie ses péchés en se camant jusqu'à l'os, faute de pouvoir convaincre son aîné de prendre une retraite anticipée.
Quoi dire d'autre ? Eh bien, aux États-Unis, en moyenne, ce sont 130 personnes qui meurent par jour par arme à feu. En France, l'augmentation est de 2% en 2022, soit plus de 8000 armes. C'est donc un trafic qui rapporte et c'est bien ce que montre et dénonce Andrew Niccol dans ce film. En 2017, il y a plus d'un milliard d'armes à feu en circulation dans le monde. Le chiffre de Lord of War, déjà alarmant, sont donc en dessous de la vérité car il date déjà de plusieurs années puisque le film sort en 2005. Chaque minute dans le monde, une personne meurt à cause d'une arme à feu. La France se place au 47e rang mondial en nombre d'armes à feu par habitant.
Oui, mais on a des pistolets, on a des couteaux, nous.
Oui. Mais revenons au film. Qui est Yuri Orlov ?
Bien, Andrew Niccol l'avoue s'être inspiré de 5 trafiquants d'armes bien réels pour créer son personnage. Pour sa documentation, il s'est entretenu avec de nombreuses personnes exerçant cette profession peu commune, communiquant essentiellement par mail, tiens donc, ce genre de personnes étant bien évidemment difficilement approchables. Et pour finir, il a fait appel à de vrais trafiquants d'armes pour avoir le matériel nécessaire et de vrais tanks, beaucoup moins chers que des copies, n'est-ce pas ? Chercher l'erreur. Hein.
Alors, si la musique originale est composée par Antonio Pinto, on retrouve aussi For What It's Worth de Buffalo Springfield, le premier groupe, n'est-ce pas, de Stephen Stills et Neil Young, quand même.
Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and a carrying signs. Most
mostly say hooray for our side. It's time we stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Paranoia strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look what's going down.
En 2005, avec Matchpoint, Woody Allen réalise un film percutant et implacable sur la morale résumée.
Sa réputation d'ex-champion, oui, c'était bien, la
liaison
était superbe. On va la refaire. Sa réputation d'ex-champion aide Chris Wilton, issu d'un milieu modeste, à se faire engager comme professeur de tennis dans un club huppé des beaux quartiers de Londres. Alors, il ne tarde pas à sympathiser avec Tom Hewett, un fils de très bonne famille avec qui il partage sa passion pour l'opéra et dont il devient l'ami.
Invité pour un week-end, il fait la connaissance de Chloé, la sœur de Tom. Il la séduit et alors qu'il s'apprête à épouser et qu'il voit sa situation sociale se métamorphoser, il fait la connaissance de la ravissante fiancée de Tom, Nola Rice, une jeune américaine venue tenter sa chance comme comédienne en Angleterre. Chris en tombe violemment amoureux et cette liaison risque de contrecarrer l'ascension sociale qu'il veut à tout prix.
Tiens, voici la scène de la première rencontre entre Chris Wilton et Nola Rice. Nola Rice.
Voilà comment faire. Je peux ?
Bien sûr.
Il faut vous appuyer et puis suivre la balle.
Je me débrouillais très bien jusqu'à ce que vous arriviez.
C'est l'histoire de ma vie. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'une belle joueuse américaine de ping-pong vient faire au milieu de membres de la noblesse anglaise ?
Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez un jeu très agressif.
Quelqu'un vous a déjà dit que vous avez des lèvres très lascives.
Extrêmement agressif.
J'ai l'esprit de compétition. C'est repoussant.
J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir.
Alors Matchpoint est un drame sur l'ascension sociale d'un jeune homme et les terribles conséquences de son ambition. Le personnage est partagé entre deux femmes et ne trouvant pas d'issue, il se voit contraint à un comportement extrême. Woody Allen porte un regard critique sur la définition des normes de société. Il évoque la difficulté à se faire une place au sein d'une société qui prône l'élitisme, le capitalisme, la raison et le pragmatisme. Il faut avoir un métier stable, une situation confortable, gagner de l'argent, rentrer dans la norme, quoi, assurer sa postérité pour réussir dans ce moule fondé sur les apparences et la bienséance. Tout ce qui dépasse fait mauvais genre. Tiens, écoutez ce que disait Woody Allen lors de la sortie du film.
Mon film parle de sexe et de violence, mais je pense que c'est traité de manière discrète. Certes, pour un Woody Allen, c'est plutôt sexy, mais quand on regarde ce qui se fait au cinéma en général, ce n'est pas grand-chose. Chaque jour, il y a un nombre incroyable de crimes, des crimes de toutes sortes, y compris des crimes à l'échelle internationale qui restent impunis. Certains sont même récompensés. Alors je pense que mon point de vue sur l'impunité n'est pas du tout cynique. Au contraire, il est tout à fait juste.
Alors, hormis Scarlett Johansson dans le rôle de la belle américaine et l'Irlandais Jonathan Rhys-Meyers dans celui de Chris Wilton, tous les autres comédiens sont anglais. Emily Mortimer, Matthew Good, Brian Cox.
Signalons que Matchpoint marque la première collaboration entre Scarlett Johansson et Woody Allen, qui se retrouveront ensuite sur Scoop, tourné également à Londres, avant un transfert à Barcelone pour Vicky Cristina Barcelona.
Alors tiens, le réalisateur, il a abandonné Manhattan et le jazz pour Londres et l'opéra. Dès les premières minutes, le spectateur est saisi par l'atmosphère sonore très connotée, donnant le ton, une musique d'opéra, comme un symbole de la haute société dans laquelle va évoluer le personnage principal. La bande son est donc principalement composée d'aria datant d'avant la Première Guerre mondiale, chantée par le ténor italien Enrico Caruso. Histoire de réchauffer l'atmosphère, écoutons Caruso dans un air très, très connu.
Fait remarquer l'Encyclopédia Universalis, comment ne pas considérer, à côté du western et de la comédie musicale, le film policier comme un genre cinématographique dont l'évolution a reflété celle du cinéma. Mmh. Puisant à ses débuts dans la littérature populaire, il a contribué à attirer dans les salles obscures une foule énorme. On peut classer les films policiers en trois sous-genres distincts.
Alors, le film de gangster d'abord. C'est dans une Amérique en proie à la crise et à la prohibition que naît véritablement le film de gangster, où entre 1930 et 1934, il devient un genre dominant, avec entre autres Le Petit César de Marvin Leroy en 1931 et Scarface de War Hawks un an plus tard.
Vient ensuite le film de détective. Alors qu'il soit amateur ou professionnel, le détective est la tierce personne entre le crime et le criminel et sa victime. Alors citons le triptyque de Clouseau, L'Assassin habite au 21, Le Corbeau et Quai des Enfers.
Bien sûr. Magnifique. Bah,
Oui, alors donc...
Après, il y a le film
oui,
noir.
Oui, vous pouvez le dire aussi.
Ah, je peux le dire aussi, oui. Oui. Je vais le dire, alors. Il y a aussi le film noir qui s'attache souvent au point de vue de la victime, qui prend souvent une tournure tragique. La notion de victime doit s'entendre au sens large. C'est aussi être victime du crime que d'être amené à protéger sa vie au prix d'un meurtre non désiré. Après Vertigo, en 58, c'est en 74 que Polanski ressuscitera le genre avec Chinatown.
Rajoutons à ces trois sous-genres la comédie policière qui mêle intrigue criminelle et humour avec des enquêtes stupides ou maladroites, comme l'inspecteur Clouseau incarné par Peter Sellers dans La Panthère Rose, ou à la française avec le commissaire Juve incarné par Louis de Funès dans la série des Fantomas.
Oui. Très bien.
Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année? Moi, je trouve que c'est dingue.
Non, c'est vrai que c'est complètement dingue, on est bien d'accord. Bon, vous avez reconnu le jingle, hein? Bah, c'est notre petite séquence ciné-télé-canapé de toutes les semaines. Les films que vous allez pouvoir regarder à la télévision. Et ça commence ce soir.
Eh bien oui, ce soir. Alors, moi aussi, j'en ai un.
Moi, j'en ai deux.
Ah bon, bah alors, allez-y, Patrick.
Non, je ne vais pas vous spoiler. Moi, c'est des films que vous n'aurez pas, donc... Bon, alors j'ai L'amour et les forêts de Valérie Donzelli sur Canal+, à 21h10 avec Virginie Efira et Melvin Poupeau. Une histoire un petit peu glauque quand même.
Ouais,
Poupeau n'est pas à son avantage du tout, mais il le joue très bien.
Et vous, Anne-Lise ?
Moi, j'ai un film sur Arte à 20h55, Dark Waters de Todd Haynes.
Ça, c'est demain.
Oui.
C'est demain ?
Ah oui, c'est demain, exact.
On est déjà mercredi. Attendez, on va rester à mardi.
Je voulais vous le voler.
Bon, ça, j'ai bien compris. Mais on en parlera quand même.
À la place, je vous propose...
J'en ai pas, moi, mardi, du coup.
Mais moi, j'en ai un. Je vous propose Le Petit Monde de Don Camillo. Figurez-vous que c'est le premier de la série, réalisé en 52 par Julien Duvivier.
Ah ben oui, c'est vrai.
Avec Fernandel, évidemment, et Gino Cervi.
Gino Cervi.
Mercredi, donc Darkwater.
Bon, bah, Darkwater. Oui, vas-y, allez-y, Patrick, je vous laisse dire.
Non, je vous en prie, vous avez commencé.
Dites le résumé, allez-y.
C'est un film absolument extraordinaire.
Oui, tout à fait.
D'un avocat qui est spécialisé dans un influent cabinet d'avocats pour défendre la société Dupont de Nemours, qui est interpellé par une personne parce que dans la ville de son enfance, l'eau est pourrie et que les vaches meurent. Et donc, il va prendre fait et cause pour ces paysans au détriment de sa carrière et de sa vie. Et c'est un film remarquable.
Avec Mark Ruffalo, Anne Hathaway et Tim Robbins.
Tim Robbins,
jeudi.
Jeudi, oui, j'en ai.
Allez-y.
Bon, j'en avais combien ?
Allez, choisissez ça.
Alors, moi, je vais en dire un sur Chéri. Oui. Chéri 25 à 21h05. Oui. Mystic River, on va en parler tout à l'heure.
Ah, mais d'accord.
Oui, c'est pour ça, grand film.
On garde la substance pour tout à l'heure. Moi, jeudi, j'ai sur Paris Première à 23h30, Les Autres.
Ah ben oui.
De Benabar avec Nicole Kidman, dont on a parlé très récemment dans
Cinéma. Oui, tout à fait.
On n'a pas la peine de revenir sur cette histoire de fantôme, on s'en rappelle.
Bon, moi, si vous voulez, sur Paris Première à 21h, juste avant donc, j'ai La Mort aux Trousses d'Hitchcock.
Ah oui, bien sûr.
Comment passer à côté, de ce film, Gary Grant, Eva Marie Saint et James Mason et Daniel Gélin.
Ah oui, c'est vrai.
Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, vendredi et samedi, j'ai rien, donc je vous laisse la parole.
Ah, moi si, vendredi.
Allez-y.
On en a parlé l'année dernière, 21h05, sur Paris Première, L'Armée des Douze Singes.
Ouais, très
sur aussi anticipation virus
Bruce Willis,
entre autres.
Oui.
C'est de Terry Gilliam, non?
Terry Gilliam, tout
c'est
à ça. Fait.
C'est vendredi, vous,
moi sur vendredi, j'ai sur Ciné Classique. Alors il faut avoir Ciné Classique, hein, Ciné Canal Plus Classique, pardon. À 20h50, Affreux sale et méchant,
Scholl
là avec entre autres Nino Manfredi,
joyau de la comédie
c'est
italienne.
C'est un film absolument
Scholl. Dont la pièce, le film est repris en pièce, une journée particulière à l'heure actuelle à Paris.
Là,
avec Roger Tizam et
c'est un film Laetitia
Casta.
C'est
un pièce de théâtre. Ouais.
C'est une bonne idée. Oui,
samedi.
Alors donc, Affreux sale et méchant.
Samedi, j'en ai pas.
Moi, j'en ai un. J'en ai deux, même, si vous voulez.
Bon, bah, allez-y.
Ouais, moi, je fais beaucoup de recherches.
Le meilleur.
Le meilleur, je suis compliqué. Entre Martin Scorsese et John Wayne, vous savez, moi, mon cœur balance. Allez, Les Affranchis.
Ah.
TMC 20h50. Martin Scorsese, Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci. Une histoire de gangster, et que pour pénétrer dans une famille, il faut respecter la loi des affranchis, c'est-à-dire ne jamais balancer ses collègues, ses complices à la police.
Alors, vous parliez de Robert De Niro. Moi, dimanche soir, je vous propose à 22h50 sur Arte un documentaire. C'est pas un film, c'est un documentaire français qui s'appelle Robert De Niro, l'arme du silence. On y apprend qui est cet acteur qui a longtemps cherché à fuir la presse et à se rendre inaccessible. C'est 22h50 sur Arte.
Et bien, juste avant, avec oui. De Niro et Mickey Rourke, ah ben d'ailleurs, voilà. Angel Heart oui. sur Arte. Et bien, ah oui, ben voilà, c'est assez sombre comme film, mais c'est un vraiment à voir. Et pour le coup, Mickey Rourke a vraiment très très beau rôle.
Mais Mickey Rourke a été un très très bon acteur.
Oui, oui. À un moment.
Il a fait un peu trop d'alcool et de drogue à un
moment. Nous arrivons à lundi.
Alors lundi,
bien, lundi,
moi j'en ai un.
Moi aussi.
Moi j'en ai un. TMC 21h25.
Oui.
Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, oui. évidemment.
Voilà, c'est obligatoire.
Évidemment, c'est obligatoire. Peter Jackson, ouais. c'est obligatoire. Ne faites rien lundi soir.
Eh bien, moi je vous propose une vache. Pas là de suite, mais à 21h10.
Avec le prisonnier ? Ou
21h10 sur France 3, la vache.
Ah oui, la vache, cette histoire. Alors,
je résume, Fatah qui cultive un lopin de terre en Algérie, nourrit un doux rêve, a mené sa génisse Jacqueline au salon de l'agriculture à Paris. Ben, il reçoit une lettre officielle du salon l'invitant à venir porte de Versailles, mais comme tout le transport coûte cher, il part à pied.
Il part à pied avec sa vache.
Voilà.
Voilà. Et moi j'en ai un, alors c'est un grand, grand, très classique, classique de la télé, surtout à cette période avant Noël, sur TF1, série film. Mais moi, c'est mon petit roux-doudou.
C'est votre petite Madeleine de Proust.
C'est ma Madeleine de Proust.
Le Père
c'est
Noël est une ordure.
Non, c'est Sissi, impératrice.
Oh, ah,
le premier. Mais oui, Romy Schneider, magnifique, dans ses grandes robes.
Elle a fait mieux quand même.
Elle a fait César et Rosalie quand même, qu'on a revu.
Mais après, voilà, moi je trouve que c'est une belle entrée en matière.
On a le droit d'aimer Sissi, Adelise. Moi, je suis
surtout à Noël.
D'Angélique Marquise des Anges, ben donc voyez, chacun voilà. sa Madeleine.
On a le droit d'aimer, si, si.
On a le droit d'aimer, si, si.
Voilà. Non, alors, non. Patrick.
Eh bien, écoutez,
oui. hein,
Billy Costigan, savez-vous que c'est un policier.
Oui.
Mais Colin Sullivan est aussi policier. Alors, l'un est infiltré dans le gang de Costello, l'autre est au service de ce même Costello. Ils appartiennent chacun à une unité chargée de démanteler ce gang de Costello. Alors, je ne vais pas donner d'indice permettant de savoir qui est qui. Le film, dans une brillante démonstration, le fait bien mieux que moi.
Alors, Martin Scorsese réalise Les Infiltrés en 2006. Faux remake du film hongkongais Infernal Affairs. Il reprend tous les codes du film policier en y ajoutant sa touche personnelle. Il joue sur l'ambiguïté. Qui des deux policiers est la taupe de Costello, en fait ?
Alors, le double, c'était le sujet pas trop évident d'Infernal Affairs. Le thème transparaît encore dans le film de Scorsese jusqu'à l'entrée des deux hommes dans les deux services distincts de la police. Les doubles sont à la fois les mêmes et leur contraire. Ils téléphonent tous les deux à leur père de substitution, Keenan pour Billy et Costello pour Colin. L'un sera le responsable indirect de sa mort, le convoquant dans un piège mortel, l'autre l'abattant froidement.
Ils aiment tous les deux la même femme, l'un ne pouvant en faire son ami, l'autre ne réussissant plus à être son amant. Ils sont ainsi l'un et l'autre victimes de troubles en étant infiltrés. Médicaments pour l'un, impuissance pour l'autre. Tout cela se traduisant pour une indécision quant au père de l'enfant de Vera, la femme aimée.
Je sais que vous y êtes obligé. Mais maintenant que vous êtes ici, qu'est-ce que vous voulez ?
Vous voulez la vérité ? Du Valium.
Ouf, si vous aviez menti, ça aurait été plus facile d'obtenir ce que vous voulez.
Ça n'en dit pas long, ça, sur le métier que vous
je
faites.
Je crois qu'il faudrait quelques séances de plus avant même de parler d'ordonnance.
Non, écoutez, j'ai d'énormes crises d'angoisse, d'accord ? J'ai gerbé mes tripes dans une poubelle en venant ici.
C'est vrai ?
Mais moi, je croyais que je devais dire la vérité, ici.
C'est le cas.
S'il y a un seul endroit où l'on peut le faire,
cas.
C'est ici.
Oui,
un type qui vient ici contre tout sentiment de vie privée, de pudeur, de confiance en soi. Et vous, qu'est-ce que vous faites ? Que faites-vous ? Vous le réexpédiez dans la rue pour qu'il cherche de la cam. C'est ça, votre boulot ? De cachet.
Comment vas-tu, Francis ? Ma mère était la seule à m'appeler Francis. Oui, je sais. Quant à ton père, il t'appelait la tumeur.
Et ton père, à toi, il t'appelait comment, Charlie ? Ah oui, j'oubliais. Personne ne l'a jamais vu.
Qu'est-ce que tu as fait des véritables microprocesseurs, hein, Franck ?
Microprocesseurs ? Ah oui. J'ai entendu cette histoire. On a arrêté des fonctionnaires chinois à la frontière parce qu'ils transportaient des prises électriques ou des trucs dans le genre.
Toi, je t'aurais un jour.
Si tu pouvais, tu l'aurais fait. Mais je sais que tu vas pas plus vite que la musique. Je vous prie de m'excuser. J'ai rancard avec des anges.
Voici ce que disait William Monahan à propos de son scénario.
Sa ligne directrice d'une grande ingéniosité m'a permis de créer de nouveaux personnages. J'aimais beaucoup la duplicité des deux protagonistes originaux, mais mon scénario met d'abord l'accent sur les drames qui adviennent lorsqu'un homme s'écarte de la route qui lui trace la vie.
Alors, Les Infiltrés, voilà, on ne va pas vous le cacher, c'est un film brillant, violent, très violent
c'est
même.
Vrai.
Les personnages sont incroyablement écrits et pour moi, il n'y a pas de faille du tout dans leur carapace.
À propos de son film, voici ce que disait son réalisateur.
J'ai mis un certain temps à lire ce script parce que j'ai tout de suite commencé à visualiser l'action, à m'imprégner de l'histoire et des protagonistes. J'ai été frappé, notamment par l'approche des personnages et leur vision du monde. Ce traitement sans compromis m'a séduit et m'a donné envie de réaliser le film.
Alors c'est la troisième collaboration entre Scorsese et DiCaprio, après Gang of New York et Aviator, dont nous avons parlé la semaine dernière.
Mais qu'est-ce qu'il a fait de bien, ce garçon, quand même. Alors, Frank Costello, que joue Jack Nicholson, est inspiré de Whitney Bulger, qui contrôle à la PEG de Boston. Oui, immense Nicholson là-dedans.
Ouais.
Donc, qui contrôle à la PEG de Boston pendant plus de 50 ans, avant d'être arrêté en 2011 et incarcéré. Son procès démontra que Bulger, a, en plus de ses activités criminelles, fut un indicateur zélé du FBI qui était censé le traquer.
La bande originale contient Sweet Dream of You, chantée par Patsy Cline.
Ah oui, c'est elle, oui.
Et oui.
C'est elle.
Patsy Cline.
Elle
va arriver bientôt.
Ah, la voilà. Bonjour, Patsy.
Bonjour, Patsy.
Pourriez-vous être assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape ?
Sur 91.3 ou de radio, bien entendu.
Alors en 2003, Clint Eastwood, le grand Clint Eastwood, réalise Mystic River, une adaptation d'un roman de Denis Lehane. Le film s'ouvre sur la légèreté d'une scène montrant trois enfants, Ginny Markham, Dave Boyle et Sam Devine, jouant innocemment au hockey, dans une rue de Boston en 75, avant de décider de graver leur nom sur du ciment encore frais. Un policier les interrompt et les rappelle à l'ordre, demandant à l'un des trois d'embarquer avec lui pour qu'il le ramène chez sa mère.
Oui, mais le spectateur finit alors rapidement par comprendre que cet homme n'avait rien d'un policier et que le pauvre enfant a été kidnappé par un prédateur sexuel. Dès cet instant, plus rien n'allait être comme avant. 25 ans plus tard, alors que les trois amis ont suivi des voies différentes, leurs chemins vont à nouveau se croiser lors d'un autre événement tragique, le meurtre de Cathy, la fille de Jimmy. Les soupçons se portent alors sur Dave Boyle.
Le rapport de chacun des trois amis d'enfance à ce drame va offrir différentes perspectives et points de vue aux spectateurs. Jimmy, le père de la victime, sera confronté au chagrin, à la colère et à la volonté de venger le crime commis. Shin, devenu inspecteur, devra mener l'enquête sur ce dernier. Et Dave, le pauvre enfant kidnappé au début du film, sera le dernier témoin au cœur des doutes.
Hey Divine, qu'est-ce que tu regardes ?
Le quartier de mon enfance.
Il y a des endroits qui font de nous ce que nous sommes.
Bloqué !
Je jouais dans cette rue quand j'étais gosse.
C'est vrai ?
Des instants qui nous donnent espoir, des sentiments qui nous font douter de nos certitudes, et des peurs qui font surgir les plus sombres de nos émotions.
C'est la voiture de ma fille.
C'est ma fille qui est là-dedans ! C'est ma fille qui est là-dedans ! Ah ! Oh mon Dieu !
Pendant une seconde, elle m'a regardé comme si elle n'allait plus jamais me revoir.
Vous ne croyez pas que je lui ferais du mal, si ?
Elle n'a pas mal, Brendan, elle est morte.
Je l'aimais tant.
Et je le trouverai avant la police. Je vais le trouver et je vais le tuer.
Tu sais à quoi je pensais ? Au vampire. Peut-être qu'un jour on se réveille et on oublie ce que c'est qu'être un être humain. Peut-être que là, c'est mieux.
Ça n'a pas de sens, ce que tu dis.
Parfois, je me dis que tout ça n'est qu'un rêve, tu vois.
Vous devriez nous dire ce qui s'est réellement passé samedi soir, Monsieur Boyle.
Nos péchés, on les enterre ici. On les lave à grande eau.
Mystic River explore les personnalités des trois personnages et, à travers cette enquête, tente de dresser un portrait de la société américaine sombre et désespérée. En effet, le film baigne dans un désespoir constant entre le deuil de Jimmy, qui vit également avec son passé de criminel, Shin, qui vit séparé d'une femme qui ne lui adresse plus un mot, et surtout Dave, qui tente de garder une fille de famille normale et de se reconstruire après le traumatisme qu'il a subi il y a 25 ans.
Alors, le casting est grandiose. Hein. On ne pas se le cacher. Hein. On va jouer Frangeux, Sean Payne, Tim Robbins, Lawrence Fishburne, Kevin Bacon, Amy Rossum. Et pour interpréter la femme de Sean Payne, Clint Eastwood a fait appel à Laura Linney, qui était vue dans Les Pleins Pouvoirs en 1997 du même Clint Eastwood.
Exact.
Mystic River n'a pas de fin heureuse. Comme souvent chez Clint Eastwood, la réalisation est chirurgicale et ne laisse pas de faux espoirs. Il faut l'accepter dès le début du film.
Et pour autant, le film recevra plusieurs récompenses, n'est-ce pas ? Dont l'Oscar du meilleur acteur pour Sean Penn.
Largement mérité.
L'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Tim Robbins.
Largement mérité.
Ainsi
aussi.
Que le César du meilleur film étranger.
Petite anecdote.
Oui.
Eh oui, vous vous souvenez de Tuco dans Le Bon, la Brute et le Truand ?
Ah oui, celui qui creuse.
Voilà.
Oui.
C'était Elie Wallach qui fait une apparition dans le film.
Ah.
En forme de clin d'œil dans le rôle d'un vieil épicier.
Ah oui, alors comme souvent, Clint Eastwood a composé lui-même la musique du film.
Ah oui.
Et son fils, Kyle, participant à deux morceaux.
Thank you.
assez agaçant, ces gens qui ont des talents.
Oui, ça m'énerve. Oh, oui, moi, ça m'énerve.
C'est pas possible.
Bon, Broken Flowers.
Moi qui suis que vieux, simplement.
Broken Flowers, réalisé par Jim Jarmusch, est sorti en 2005, est un film de détective amateur. En voici le pitch.
Célibataire endurci, Don Johnston vient d'être quitté par Sherry, sa dernière conquête. Il se résigne une fois de plus à vivre seul, effondré sur son canapé en regardant la télévision qui passe la vie privée de Don Juan et en écoutant le requiem de Forêt sur sa chaîne IFI. C'est alors qu'il reçoit une lettre qui lui apprend qu'il est le père d'un enfant de 19 ans et que celui-ci est peut-être parti à sa recherche.
La mystérieuse lettre le contraint à revenir sur son passé. Anonyme, écrite à l'encre rouge, elle aurait été écrite par une de ses anciennes amantes. Sur les conseils de son meilleur ami, Winston, détective amateur, il décide de mener l'enquête afin d'éclaircir ce mystère. Don se lance alors à la recherche de son fils perdu dans un long périple, au cours duquel il retrouve quatre de ses anciennes amours. À travers ses visites surprises, Don se retrouve confronté à son passé et du même coup à son présent.
Alors, lors d'interview, Jim Jarmusch et Bill Murray parlaient du film. Allez, parlez-en. Voilà, merci.
Ça parle de quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut et où va le mener sa vie. Ça parle de plein de choses. De toute manière, la vie est pleine de questions qui n'ont pas forcément de réponses immédiates.
Je suis un malade du rose, j'en suis fou. Et j'ai lu qu'après avoir fait des tests scientifiques, on a découvert que le rose attendrit les hommes.
Alors, se confronter à son passé pour évaluer son présent est un ressort dramatique bien connu pour développer la thématique nostalgique du temps qui passe et en revisitant la comédie sentimentale, Jarmusch déjoue les attentes du spectateur. S'il lui propose une histoire, il ne noue pas d'intrigue sentimentale. Don se tient au plus près du programme fixé par Winston. Jarmusch s'en tient finalement à un burlesque excluant toute poisse psychologique. Par ailleurs, Jarmusch a précisé ses intentions.
Alors ce sont le hasard, la chance, les coïncidences qui guident notre vie. On peut toujours vouloir organiser les choses autant que l'on veut. Ce qu'il y a de plus beau et de plus profond dans la vie n'est pas rationnel, mais émotionnel. Ce sont les rencontres que l'on fait. Ces choses-là sont très mystérieuses. Elles ajoutent, selon moi, à la trame de la vie.
Broken Flowers est une comédie, mais aussi une réflexion mélancolique sur la vieillesse qui nous guette, nous a conquis. Dans le rôle du soixantenaire, Bill Murray le regarde dans le vide, impassible et quasiment muet, n'est plus le conquérant.
La fleur au fusil,
mais plutôt celui du bouquet de roses à la main.
Et puis, sans faire trop catalogue, Jarmusch passe en revue des portraits d'Américaines moyennes, qu'elles soient délurées, casées, épieuses, non conventionnelles, dépressives. Le rapport à l'enfant est à peine évoqué dans chacune des situations, mais l'ombre de la maternité apparaît à chaque fois, subtilement, dans leur réaction ou action face à leur ancien amant. Dans ces rôles féminins, l'on retrouve Sharon Stone, Frances Conroy, Jessica Lange et Tilda Swinton. Pas mal. Hein.
Alors, le 9e long métrage de Jim Jarmusch, s'il n'est pas élevé au rang de film culte, à la manière de Dead Man ou Ghost Fog, et reste malgré tout un film agréable à voir. La bande originale, elle, comprend entre autres I Want You de Marvin Gaye. You don't want me now.
Bonsoir. Alors, t'étais aux premières loges ? C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
Ça, c'est vrai, ça !
Oui, ça, c'est vrai. Mais alors, pas tout à fait, parce que je ne sais plus quel homme de cinéma, j'entendais dire que la bonne place au cinéma, c'était le diamètre de l'écran multiplié par un chiffre précis. Il fallait s'asseoir à tant de mètres pour être dans les meilleures conditions.
Le chiffre d'or, oui.
Voilà. En tous les cas, ce qu'on vient d'entendre, là, c'est le petit jingle qui annonce les sorties de la semaine, c'est-à-dire demain matin.
C'est-à-dire demain, oui, c'est ça.
Demain matin ou demain après-midi, ça dépend dans quel multiplex vous allez. Et dites-moi, Annelise,
oui.
Il me semble que vous n'êtes pas seule à la régie.
Oui, tout à fait.
Quel est ce personnage ?
Quel est ce grand dadais qui nous arrive ? Ce grand garçon.
Il est en stage.
Il a un prénom ?
Ah, Aude Radio. Oui, il a un prénom, il va le dire tout seul.
Aude Radio, il s'appelle ?
Non, quand même.
Noam.
Noam.
Voilà.
Alors il a
qui
participé.
Nous fait la régie.
Ah, très bien, merci ouais. Noam.
Merci Noam.
Oui.
Bon alors les films cool. qui sortent demain matin.
Ah oui, alors moi j'en ai un.
Allez-y, moi aussi j'en ai qu'un. Moi.
Alors moi, bon alors j'aurais pu en avoir plus, oui, mais moi, j'en ai qu'un. Bah,
allez-y.
Que,
comme d'hab.
Moi c'est un film qui s'appelle Fremont de Babak Jalali sur une jeune afghane réfugiée aux États-Unis qui travaille dans une fabrique de fortune cookies, vous savez les à San Francisco, vous savez les cookies dans lesquels il y a un message qu'on craque comme ça, voilà. Et un jour, eh bien la place de la personne qui écrit les messages, les petits mots dans des fortune cookies est malade et Dounia, cette jeune afghane, doit la remplacer. Et du coup, bah, de fait de ce nouveau poste, eh bien, un jour, elle met un message un peu particulier pour voir comment le destin va réagir par rapport à ça.
Elle dit « Je suis célibataire et je voudrais me marier ».
Alors, je sais pas ce qui est dit dans la bande-annonce. En tout cas, c'est pas écrit. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui a l'air assez joli, tourné en noir et blanc. Ce qui est encore assez rare. Et voilà, ça a l'air d'être une histoire de destin assez belle.
D'accord. Intéressant. Alors vous, Patrick, qu'est-ce que vous nous conseillez ?
Alors moi, je vais vous conseiller en premier temps un film de Ladji. Qui a tourné avec Agnès Varda, Murmure. Bâtiment 5, ça s'appelle. C'est avec Antadio, Alexis Mananti et Aristote Louindoula. Alors, Abby, qui est une jeune femme très impliquée dans la vie de sa commune, découvre le nouveau plan de réaménagement du quartier dans lequel elle a grandi. mené en catimini par Pierre Forge, le jeune pédiatre propulse ses mères. Il propulse ses mères, il prévoit la démolition de l'immeuble où Abby a grandi. Alors avec les siens, elle se lance dans un bras de fer contre la municipalité et ses grandes ambitions pour empêcher la destruction de ce bâtiment 5.
Très bien, très éducatif comme film.
Oui, c'est assez bon. Militant.
Alors moi, je vous propose « Soudain seul » de Thomas Bideguin. Alors je vous lis le pitch. Hein. En couple depuis 5 ans, Ben et Laura ont décidé de faire le tour du monde en bateau. Avant d'atteindre l'Amérique du Sud, ils font un détour vers une île sauvage près des côtes antarctiques. En pleine exploration, une tempête s'abat sur eux et leur bateau disparaît. Voilà, éloigné du monde, ils se retrouvent soudain seuls face au danger et à l'hiver qui approche. C'est avec Gilles Lelouch et Mélanie Thierry. C'est un casting énorme puisqu'il n'y a que deux comédiens.
Il n'y a que deux comédiens, oui. Et alors, moi, j'ai entendu Gilles Lelouch en parler l'autre jour sur Inter et il n'a pas bataillé, mais au départ, ce n'est pas lui du tout qui était prévu.
C'était pas elle non plus, d'ailleurs.
C'était pas elle non plus. C'était un couple américain qui devait jouer. Et ça s'est mal passé avec la prod.
Oui, c'est ça.
Comme quoi,
le destin.
Bon, un petit dernier, peut-être.
Alors, j'ai une petite trilogie éventuellement à vous proposer.
Voilà.
Parce que, bon, c'est un. Alors, moi, j'aime bien, vous savez, j'aime bien les vieux pots, j'aime bien les vieux films. Et donc, je vous propose la trilogie d'Apu, qui est une trilogie d'un cinéaste indien qui s'appelle Satyajit Ray, sorti en 2003, pas Satyajit Ray, mais le film. Donc La Complainte du Sentier, qui est le premier opus. Apu est un garçon de 7 ans qui vit pauvrement avec sa famille dans la maison ancestrale. Ensuite, il a tourné L'Invaincu, toujours pareil, de Satyajit Ray, toujours en 2003. C'est sorti en septembre 2003, les trois films. Et dans le deuxième volet, Apu a 10 ans, il est installé avec sa famille à Benares. Et dans le troisième, Le Monde d'Apu, toujours en 2003, c'est à Calcutta en 1930. Et donc, Apu, là, il a effectivement 23 ans et il rêve de succès littéraire. Mais faute d'argent, il doit interrompre ses études pour affronter le monde du travail.
Et alors, dites-moi, les trois films sortent en même temps ?
Les trois films sortent en même temps, oui, absolument. Ils ressortent demain.
Alors, c'est bien de pouvoir voir ces films au cinéma.
Tout à fait. Alors bon, c'est peut-être pas dans toutes les salles, hein, on est d'accord. Mais ça sort.
C'est parce que
pour les auditeurs de Paris pourront aller le voir éventuellement à la Pagode. Voilà.
Très bien.
Merci Patrick. Avec plaisir Jean-Jacques.
Voilà. Comment, quoi ?
Voilà, Ciné-Sans, c'est fini.
Ouais, super.
Bah non, pour aujourd'hui. Vous allez pouvoir retourner dehors où la pluie ne cesse de tomber, où le froid ne cesse d'arriver. Heureusement, le soleil continue sa course contre vents et marées. Le temps avance, quoi qu'il arrive. Alors, si vous voulez remonter un peu le temps, vous pouvez toujours nous retrouver en podcast sur le site d'Ode Radio ou bien nous suivre sur notre page Facebook. Surtout, n'hésitez pas à nous écouter mardi prochain. Nous vous raconterons des petits moments de l'histoire de France. Ou d'ailleurs.
Et ce sera bien sûr à 14h sur Ode Radio 91.3, bien entendu.
On se quitte avec Claude Nougaro, véritablement à bout de souffle. Allez, à mardi prochain et en attendant,
bon vent à tous.
Quand j'ai rouvert les yeux, tout était sombre dans la chambre. J'entendais quelque part comme une sonnerie. J'ai voulu bouger, aïe, la douleur dans l'épaule droite. Tout à coup me coupa le souffle. Une peur affreuse m'envahit et mon corps se couvrit de sueur. Toute ma mémoire me revint, le hold-up, la fuite, les copains qui se font descendre. Je suis blessé mais je fonce et j'ai le fric. Je glissais la main sous l'oreiller, la mallette pleine de billets était là bien sage. 200 briques. Somme toute, ça pouvait aller. Mon esprit se mit à cavaler sur et ma planque chez Suzy. Et bientôt à nous de la belle vie. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie. Une radio s'est mise à déverser, un air de piano a tout cassé. Je connaissais ce truc, c'était le blue rondo à la turtève. Groubette jouait comme un fou, aussi vite que moi mettant les bouts. Soudain la sonnerie du téléphone, mon cœur fit un bond. Je pris le récepteur, allô c'est Suzy, ça fait deux fois que j'appelle. Qu'est-ce qu'il y a, y'a un garde-flic au coin de la rue. Je restais sans voix, j'étais foutu, il faut que tu files. Me dit-elle, descends pas, sauve-toi par les doigts. Bon Dieu, encore les flics. Vite le flic, et puis l'escalier de service. 4 à 4, 1, 6. S'était ouvert sur les étoiles et me revoilà faisant la malle parmi les antennes de télé. Ce pognon je ne l'aurais pas volé 30 mètres plus bas dans la rue du Colise. C'était la cohue. J'en peux plus. J'ai couru comme dans un rêve le long des cheminées. Haletant la mallette à la main, je vacillais. Sur un toit s'amorçait un escalier d'incendie.
trop sans doute fondu le cours. Je descendis jusqu'en bas et me voici à trois pas d'une sortie sur la rue. Quelle rue je ne le savais plus, mais tant pis, je suis sorti et tout de suite je les ai vus. Quatre flics au bout de la rue, pas de panique, j'ai reconnu le bar du Living, j'y suis entré.
La boîte était pleine comme un œuf, deux ou trois jazzmen faisaient le bœuf. Je brûlais de fièvre, je voyais les murs, les bouteilles qui tournaient. Puis quelqu'un m'a saisi par le bras, je me retournais, Suzy était là toute pâle, elle me souriait, de nouveau le soleil a brillé. Dans un souffle, elle m'a dit, viens, j'ai la voiture tout près d'ici, nous sommes sortis, mais devant moi, un poulet a crié, ne bouge pas, avec la mallette, je l'ai frappé, alors le coup de feu a claqué, me clouant sur place. Oh Suzy, t'en fais pas. Je te suis, on y va. Les palaces, le soleil, la mer bleue, toute la vie,